On va rester dans ce thème de la foi. Vous avez peut-être vu sur le quad 9 ce titre de la prédication d'aujourd'hui, Sola Fide. Et c'est un slogan que nous héritons de la réforme qui signifie la foi seule. Mais est-ce que vous connaissez les 5 affirmations fondamentales qu'on associe à la réforme protestante et qu'on peut considérer comme l'héritage théologique des protestants? Alors je vous les ai mis sur le quad 9 aussi, et ça commence par ce premier sola fide qui signifie la foi seule, car c'est par la foi seulement qu'on est sauvé. La foi seulement est contrairement à la participation aux œuvres pour obtenir la foi. Sola gratia, la grâce seule, le salut est une grâce, un cadeau que Dieu nous fait. Sola scriptura, l'écriture seule, l'écriture, la Bible, qui est la seule autorité en matière de foi et de vie chrétienne. Solus Christus, le Christ seul, Jésus-Christ est le seul chemin qui conduit à Dieu. Soli Deo gloria, à Dieu seul la gloire, comme tout est don de Dieu, c'est à lui seul que l'on rend la gloire. Et la première affirmation est sans doute la plus fondamentale, sola fide, celle qui est à l'origine du changement radical de Martin Luther et plus largement la redécouverte de la bonne nouvelle de Jésus-Christ par les réformateurs. Dieu n'attend de nous que la foi. Aucune œuvre, aucun mérite de notre part n'est attendu pour recevoir le salut. Et c'est par la lecture de l'Épître aux Romains que Luther a reçu cette conviction lorsque l'apôtre Paul développe l'idée de la justice de Dieu, celle qu'il nous donne, cette justice de Dieu qui nous est donnée en Jésus-Christ et que nous accueillons par la foi. On va lire dans un instant deux versets de cet épître aux Romains qui viennent, voilà, ces deux versets peuvent déjà s'afficher, c'est après les traditionnelles formules de salutation et une introduction par laquelle l'apôtre Paul exprime son désir d'aller à Rome pour y rencontrer une église qu'il ne connaît pas. Il dit encore quelques mots à propos de la bonne nouvelle qu'il va développer tout au long de son épître et interviennent ces deux versets qui s'affichent derrière moi, qui ont changé la vie du moine Martin Luther et qui ont fait l'effet d'une révolution, un bouleversement pour lui, qui a fait éclater les carcans de la religion, son idée de la religion avec une certaine pression des mérites, le poids de la culpabilité qui l'oppressait. Et il a écrit ceci à propos de sa découverte. « Aussitôt, je me sentis renaître. Et il me sembla être entré par des portes largement ouvertes au paradis même. Autant j'avais détesté ce terme de justice de Dieu, autant j'aimais, je chérissais maintenant ce mot si doux. Et c'est ainsi que ce passage des Écritures devint pour moi la porte du paradis. » Lisons donc ce fameux texte et voyons comment il peut encore aujourd'hui être une formidable source aussi de liberté, de libération pour nous. Romains chapitre 1, versets 16 et 17. C'est sans honte, en effet, que j'annonce la bonne nouvelle. Elle est la force dont Dieu se sert pour sauver toutes les personnes qui mettent leur foi en lui, les Juifs d'abord, mais aussi ceux qui ne sont pas Juifs. En effet, la bonne nouvelle révèle comment Dieu rend les humains justes devant lui. Cette justice vient par la foi et a pour but la foi, comme l'affirme l'Écriture, « Celui qui est juste par la foi vivra. » Qu'est-ce qui a été si libérateur pour Luther dans ce texte? C'était une compréhension toute nouvelle de la justice de Dieu. Lui qui était angoissé pour son salut, il était rongé par la culpabilité, il redoutait le jugement de Dieu sur sa vie et ses fautes, il comprend soudain à la lecture de ce texte que Dieu n'est pas ce juge qu'il croyait et qu'il n'attend de nous que la foi. Il s'agit d'être juste par la foi et non par nous-mêmes. La justice de Dieu, et c'est cela la bonne nouvelle, c'est celle qui se trouve en Jésus-Christ. La question n'est pas de savoir comment on devient juste devant Dieu, mais comment Dieu nous déclare juste devant lui. Il ne s'agit pas de savoir comment Dieu rend justice, mais comment il nous rend juste. La justice de Dieu, ce n'est pas celle que Dieu attend de nous, c'est celle qu'il nous donne. Et c'est Dieu qui a pourvu à cette justice par son Fils, Jésus-Christ, le seul juste, mort et ressuscité pour nous. Nous n'avons plus à nous soucier de notre propre justice, nous devons simplement accueillir par la foi la justice que Dieu nous donne. Et la bonne nouvelle, c'est ce renversement radical. Ce n'est pas à nous de nous rendre justes, c'est Dieu qui nous rend justes et qui nous donne sa justice. Dans un langage des fois théologique, on dit que Dieu nous impute la justice de Jésus-Christ. Notre part, c'est la foi. Un simple accueil de la justice de Dieu. Le juste vivra par la foi. Lorsque Paul dit ces mots, écrit ces mots, il revisite ici une affirmation que l'on trouve déjà dans l'Ancien Testament, sous la plume du prophète Habacuc. Et dans le contexte du prophète, il s'agissait d'opposer l'attitude du juste à celle de l'orgueilleux. Je vous lis le verset, Habacuc 2, verset 4. « Celui qui est gonflé d'orgueil ignore la droiture, mais le juste vit par sa fidélité ou sa foi. » Paul élargit la portée de cette formule et l'applique à la question du salut. Dans la formulation grecque, celle du Nouveau Testament, l'expression qu'on peut traduire en français par « par la foi » peut être rattachée soit au terme « juste », à l'adjectif « juste », soit au verbe « vivra ». Et alors ça peut donner deux traductions possibles. Peut-être que Paul joue d'ailleurs sur ce double sens possible, c'est peut-être le cas. Il parle bien d'être juste par la foi, donc on pourra rattacher cette expression par la foi au mot juste, être juste par la foi. Mais il évoque aussi le fait de vivre par la foi. Si bien qu'on ne sait pas forcément comment traduire, est-ce que c'est le juste par la foi, celui qui est juste par la foi vivra, ou le juste vivra par la foi. Voyez, selon où on place ce par la foi. C'est peut-être un peu ce qui ressort de la formule qu'il utilise juste avant la citation, le fait de vivre par la foi, cette justice vient par la foi et a pour but la foi. Donc littéralement, cette justice est par la foi et pour la foi. La justice que Dieu nous donne en Jésus-Christ se reçoit par la foi et se vit dans la foi. C'est cette idée qu'on retrouve dans la formule de la réforme, sola fide, la foi seule. Le juste, par la foi, vivra. C'est une bonne nouvelle à annoncer. C'est un des principaux aspects de la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Le salut est une libération et non pas un enfermement. Il est une grâce reçue et non pas une contrainte à respecter. C'est une question de foi, non pas de religion, d'effort ou de mérite. Prenons garde alors, dans notre témoignage et notre annonce de l'Évangile, la bonne nouvelle, à ce que nous proclamons ou ce que nous laissons entendre. Est-ce bien une bonne nouvelle que nous annonçons ? Je rappelle au passage que c'est le mot « évangile » qui littéralement signifie « bonne nouvelle ». Veillons à ne pas réduire la bonne nouvelle à un message qui serait figé, stéréotypé. Je ne vois pas d'ailleurs dans le Nouveau Testament une seule façon de dire la bonne nouvelle. En revanche, la bonne nouvelle tourne toujours autour de la personne de Jésus-Christ. On pourrait dire même que fondamentalement, la bonne nouvelle, c'est la personne de Jésus-Christ lui-même, Dieu fait homme, qui meurt pour le pardon de nos péchés et qui ressuscite pour nous, notre justice, notre justification, qui ressuscite pour, comme preuve de notre salut. Ce n'est pas un ensemble de doctrines auxquelles il faut croire à propos de Jésus-Christ. C'est d'abord le témoignage historique que Dieu s'est fait homme, qu'il est mort et ressuscité pour notre salut, et que nous pouvons le rencontrer aujourd'hui, personnellement. Veillons aussi, et c'est plus important encore, à ne pas réduire l'évangile, la bonne nouvelle, à la transmission d'une morale ou la défense seulement de valeurs chrétiennes. Ces choses-là, sans doute, sont des conséquences de l'évangile, mais ne font pas partie de l'essence même de l'évangile, la bonne nouvelle. Veillons à ne pas dire « tant que tu n'es pas rentré dans le moule », tant que ta vie n'est pas caractérisée par ces valeurs telles que nous les définissons, tu n'es pas vraiment chrétien. Nous savons bien que devenir chrétien, c'est un chemin. Et personne n'est chrétien à 100%. Disciple de Jésus-Christ, parfaitement, personne ne l'est. On peut même, d'ailleurs, avec un discours comme ça, si on met trop l'accent sur la morale, finir par douter des fois, du coup, de notre propre conversion, de la sincérité de notre foi, si nous ne correspondons pas dans notre vie à tous les standards moraux que nous visons. Et on oublie qu'annoncer la bonne nouvelle, c'est annoncer d'abord Jésus-Christ, sa mort et sa résurrection, et la possibilité de le rencontrer par la foi, entrer dans un cheminement avec lui qui nous mène jusque dans l'éternité. Une bonne nouvelle à proclamer, mais une bonne nouvelle pas seulement à proclamer, c'est une nouvelle à vivre aussi. Le juste par la foi vivra. La vie dont il est question ici n'est pas seulement la vie à venir après notre mort, c'est déjà la vie ici et maintenant. La vie éternelle qui commence aujourd'hui dans la rencontre avec Jésus-Christ. L'accueil de la grâce par la foi n'est pas seulement la porte qui permet d'entrer dans le royaume de Dieu, c'est aussi le chemin qui parcourt ce royaume. La justice de Dieu, son salut, c'est par la foi et pour la foi. Ce n'est pas « je commence par la foi et ensuite » je poursuis par mes efforts, mes œuvres et mes mérites. C'est la foi, toujours la foi, encore la foi, rien que la foi, seulement la foi. On trouve un exemple à ne pas suivre dans le Nouveau Testament, c'est celui des Galates, auxquels Paul reproche de se remettre sous le joug de la loi après avoir reçu la grâce. Il leur écrit ceci, « Je suis stupéfait de la rapidité avec laquelle vous vous détournez de Dieu. Il vous a appelé par la grâce du Christ et vous, vous vous tournez vers une autre bonne nouvelle. » Et il ajoute immédiatement que ce n'est plus en réalité une bonne nouvelle. Et un peu plus loin, « Comment pouvez-vous être aussi insensé? Ce que vous avez commencé par l'Esprit de Dieu, voulez-vous l'achever maintenant par vous-même ?» Ce qui me fait dire, à la suite de Paul, que le seul moteur de la vie chrétienne, c'est la foi. Et ce n'est pas qu'une étape, c'est la foi du premier au dernier jour. La foi seule, et c'est aussi libérateur au moment de notre découverte du salut de Dieu, que tout au long de notre cheminement. Pourquoi Dieu nous accueillerait-il par grâce pour ensuite nous mettre la pression ? Ce que Dieu attend de nous, chaque jour, c'est la foi. Toujours la foi, seulement la foi. C'est cette foi, cette confiance placée en Dieu, qui nourrit une relation personnelle avec Jésus-Christ qui produira du fruit en nous. C'est l'Esprit du Seigneur qui vit en nous, qui produira du fruit. Dans Jean 15, Jésus utilise cette image que nous sommes comme des sarments attachés au cep. Il faut que le sarment produise du fruit. On a quand même clairement ça dans le passage de Jean 15. Si le sarment ne produit pas de fruit, il va être coupé, et alors il va être taillé d'abord pour qu'il produise du fruit, il va être taillé par la parole. Et pour produire du fruit, s'il ne produit pas de fruit, le vigneron va le couper et le jeter au feu. Mais ce n'est pas parce que dans ce passage il est question de l'importance du fruit que ça signifie que ce fruit est de notre responsabilité seule. Notre responsabilité, dans ce passage même de Jean 15, c'est de rester attaché au cep. Et à chaque fois que vous trouvez la notion d'œuvre bonne ou de fruit apporté pour Dieu dans le Nouveau Testament, si vous trouvez un passage qui dit l'inverse, vous viendrez discuter avec moi après. Mais à chaque fois, c'est pour nous dire restez attaché à Dieu, et ce fruit viendra de l'Esprit, viendra du fait d'être attaché au cep. Croyez, placez votre confiance en Dieu, et ce fruit sera produit par Dieu lui-même en vous. Alors peut-être vous me direz que je présente une vision un peu gentille des choses. On peut penser à Jésus envers ses disciples, ou envers les pharisiens aussi, ou encore à Paul envers les destinataires de ses lettres qui ont parfois tapé du poing sur la table. C'est vrai. Mais à chaque fois qu'on trouve dans le Nouveau Testament des passages comme ça, c'est pour appeler à revenir à la foi et à la grâce. C'est pour ça que Paul se fâche. Pour dénoncer de la part de Jésus la pression abusive que les pharisiens mettaient sur les autres ou sur eux-mêmes, qui les empêchait d'entrer dans cette dimension de grâce et de foi. À chaque fois que Jésus ou les apôtres tapent du poing sur la table, c'est pour se revenir à la foi seule, à la grâce seule, parce que c'est la seule façon de s'en remettre pleinement à Dieu, de le laisser agir en nous librement. Amen.